Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 22h.
Nous avons besoin de quelqu'un qui nous représenterait à Budapest.
La curiosité est un vilain défaut.
Monsieur Lauer m'a expliqué que le propos de votre organisation, sa raison d'être, était de sauver les 250 000 juifs qui restaient en Hongrie.
Oui, c'est cela. Vous voyez alors pourquoi il est important de choisir l'homme de la situation.
RTL.
J'ai la nette impression que le docteur Bruce doute encore de moi.
Non, uniquement de votre application, monsieur Wallenberg.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On l'a surnommé le Schindler suédois, mais qui est Raoul Wallenberg? Cet homme qui a sauvé des dizaines de milliers de juifs hongrois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment a-t-il manœuvré pour contourner la folie nazie? Et comment, pourquoi a-t-il disparu? On vous raconte sa passionnante histoire avec Fabrice Virgili. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS. Alors évidemment, grâce au film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler, on connaît l'histoire d'Oskar Schindler, chef d'entreprise allemand, profiteur de guerre, un peu coureur de jupons aussi, et surtout membre du parti nazi qui a sauvé plus de 1000 juifs de l'Holocauste. On écoute d'ailleurs un extrait de la sublime BO de ce film. Mais Raoul Wallenberg, pourquoi en France on ne le connaît pas?
Eh bien parce que Raoul Wallenberg est suédois, il n'y a pas eu de film de Spielberg sur lui, et qu'en France, la question aussi bien de la guerre a longtemps été d'abord franco-française, donc nos héros sont nationaux, Jean Moulin, De Gaulle, et parmi les justes, parce qu'il y a eu des justes de France, il y en a plus de 3700, il n'y a aucun nom qui se dégage. C'est plus le sentiment d'une action collective, anonyme, du voisin qui va cacher au risque de sa vie des juifs pendant la guerre, et il n'y a pas des personnalités comme ça qui se dégagent comme Raoul Wallenberg.
Et Raoul Wallenberg, est-ce qu'on peut le comparer justement à Oskar Schindler, puisqu'on l'appelle le Schindler suédois?
Sans aucun doute, s'il y avait eu un film de Spielberg sur Wallenberg, c'est peut-être Schindler qu'on appellerait le Wallenberg allemand. Hein. Mais bon, disons que la comparaison s'arrête là. Non, il y a un autre point commun. Ils sont tous les deux élevés à la dignité des justes par Yad Vashem en Israël en 1963, la première année. C'est-à-dire qu'ils font partie des tout premiers justes élevés à cette dignité. Schindler est vivant. Et à cette époque-là, on pense que Wallenberg est toujours vivant, même si il est... on ne sait pas très bien où il se trouve.
On y reviendra, voilà. On racontera cette partie de son histoire. Mais d'abord, on va comprendre comment Raoul Wallenberg a sauvé des dizaines de milliers de juifs hongrois, les risques qu'il va prendre. Je voudrais qu'on se replonge dans l'époque. On est donc en 1944. On va dire, alors avec notre regard d'aujourd'hui, on le sait, mais la libération de l'Europe est en route. Et en Hongrie, il y a une particularité, c'est que la communauté juive est quoi, quasiment intacte là-bas, c'est ça?
Oui, parce que le régent Horthy, qui est à la tête de la Hongrie, est un allié de Hitler, mais il a tenu, pour des questions de souveraineté aussi, à conserver la mainmise sur le territoire hongrois, et sur les juifs hongrois. Il y a près de 700 000 juifs en Hongrie, et il s'oppose jusqu'en 1944 à ce qu'ils soient déportés. Il s'oppose à l'application de la solution finale. Ça ne veut pas dire qu'il est philosémite, bien au contraire. Il y a trois lois anti-juives qui sont prononcées en Hongrie dès 1938, la seconde en 1939, puis en 1941.
Ça veut dire étoile jaune, comme on a pu le connaître.
L'étoile jaune, ça arrivera plus tard, ça arrivera en avril, justement, au moment où la décision de la déportation est prise.
D'accord.
Mais il y a exclusion des quotas dans les professions, exclusion professionnelle, donc il y a tout un système antisémite qui fonctionne dans la Hongrie de Horthy, mais sans la déportation. Et donc on est en 44, ça veut dire qu'à l'est de l'Europe, l'essentiel de la Shoah a été réalisé. Les nazis ont assassiné les juifs de l'est de l'Europe, de Pologne, des territoires de l'Union soviétique qui ont été envahis. Elle est en cours à l'ouest. Hein. Les rafles continue depuis deux ans dans le cas français, mais il reste la Hongrie, il reste la Roumanie, deux pays où les juifs ont jusque-là été non pas protégés dans l'absolu, mais protégés de la déportation vers les centres de mise à mort.
Et le 19 mars 1944, c'est un tournant pour la communauté juive, parce que les troupes nazies envahissent la Hongrie. Pourquoi ?
Oui, eh bien parce qu'il y a un désaccord justement de plus en plus grand entre Hitler et Horthy. Hitler a de moins en moins confiance en son allié. Il craint un retournement et c'est là où le contexte de la guerre dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on sait évidemment qu'elle se termine un peu plus d'un an plus tard, en mai 45, ils ne le savent pas encore. Mmh. Néanmoins, ils savent bien que l'armée rouge avance sur le front de l'Est. On est là en mars, hein, le débarquement n'a pas eu lieu. Mais l'armée rouge avance, approche des frontières de la Hongrie. Et donc Hitler s'inquiète des éventuels retournements d'alliés, justement vu la pression soviétique. Et donc il va du coup maintenir Horthy au pouvoir, mais en fait envahir la Hongrie. On a donc là un allié occupé.
Avec quelles conséquences pour la communauté juive de Hongrie?
Une conséquence immédiate, c'est l'arrivée de Eichmann, qui est là avec une équipe pour organiser justement l'assassinat des Juifs de Hongrie, qui est donc cette grande communauté juive qui n'a pas été assassinée pour l'instant.
Fabrice Virgili, vous nous rappelez qui est Adolf Eichmann ?
Alors il est responsable, et c'est lui qui va organiser la déportation des Juifs de Hongrie pour leur assassinat.
C'est un membre, c'est un haut fonctionnaire du parti nazi.
Il sera jugé bien après, et en fait une des raisons de sa postérité aujourd'hui, c'est son jugement à Jérusalem bien plus tard, hein, début des années 60. Mais c'est lui qui a la charge de cette organisation, il a le pouvoir pour l'organiser et il arrive le 19 mars à Budapest pour réaliser ce dessin. Il faut s'imaginer que pour les nazis, ils ont une mission à remplir, c'est d'éliminer les juifs d'Europe. Et c'est de l'ordre pour eux de l'urgence. Ils voient l'armée rouge avancer et ils veulent achever ce qu'ils considèrent comme leur tâche avant qu'il soit de leur point de vue trop tard. Donc, en même temps, il y a une raison stratégique pour vraiment mettre la Hongrie sous contrôle allemand, mais tout de suite, l'application de l'assassinat des Juifs de Hongrie.
Cette histoire, vous la racontez, Fabrice Virgili, avec Annette Wiewerka, Raoul Wallenberg, Sauver les Juifs de Hongrie, c'est chez Payot Édition. Dans un instant, on va vous raconter comment apparaît ce futur juste Raoul Wallenberg. Vous êtes bien dans la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Vous les achetez, vous les payez pour chaque nom que je
vous étiez encore mon employé. J'espère que vous m'en auriez dissuadé. Ça me coûte une fortune. Finissez cette page et laissez un espace en bas.
Cette liste, c'est le bien absolu.
Un extrait de La Liste de Schindler, le film de Spielberg. Ce soir, on vous raconte le destin d'un autre juste, Raoul Wallenberg, un diplomate suédois. Il a sauvé des dizaines de milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Fabrice Virgili, vous nous avez posé le décor, si j'ose dire. 1944, les juifs de Hongrie forment la plus grosse communauté juive encore intacte d'Europe. Mais le pays vient d'être envahi par l'Allemagne nazie avec l'arrivée d'Adolf Eichmann. Dans votre livre Raoul Wallenberg, Sauver les Juifs de Hongrie, vous expliquez comment Eichmann organise la solution finale en quelque sorte. Que fait-il?
Oui, parce qu'il s'agit donc de déporter, d'assassiner 725 000 Juifs de Hongrie en un temps de quelques mois. Mm-hmm. Donc il y a à la fois une organisation sur place en Hongrie, la mise en ghetto de plus en plus contrôlés. Alors, ce ne sont pas forcément des grands ghettos comme celui de Varsovie, qui sont un quartier de ville. Ça peut être quelques immeubles, hein, mais éparpillés dans tout l'espace hongrois, identifiés. Donc, la première condition, c'est de savoir où sont les Juifs pour pouvoir ensuite les emmener vers les trains qui vont les emmener à Auschwitz-Birkenau.
Ils habitaient déjà dans des quartiers définis dans les grandes villes de Hongrie, où on les a regroupés dans ces quartiers pour en faire des
ghettos? On les regroupe progressivement. Ils habitaient déjà, mais il y a une systématisation de cette politique de mise en ghetto, hein, avec toutes sortes d'histoires, parce que parfois ce sont des étages, donc il s'agit d'expulser des Hongrois non-juifs, mais ceux-ci protestent parce qu'ils veulent rester dans leur logement. Donc quand on va voir dans détail de ce qui se passe, hein, on peut avoir tous ces jeux de voisinage qui joue. Mmh. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, pour Adolf Eichmann, la priorité, c'est de regrouper les Juifs pour pouvoir les déporter le plus vite possible. Et puis, oui, non. Ça, c'est pour la Hongrie. Et puis, il s'agit d'avoir les lieux de mise à mort. Et ça va être Auschwitz-Birkenau. Les autres centres de mise à mort, camps d'extermination, qui ont eu pour tâche d'assassiner les Juifs de l'Est de l'Europe, Treblinka, Sobibor, Belzec, sont déjà fermés. Ils ont fait leur œuvre. Il reste Birkenau. Et à Birkenau, on va faire deux aménagements, l'installation de nouvelles chambres à gaz et la prolongation de la voie ferrée jusqu'à la proximité la plus immédiate des chambres à gaz pour permettre d'accélérer le rythme des assassinats.
Ça, c'est fait pour les Juifs de Hongrie.
C'est fait pour les Juifs de Hongrie. Et Eichmann va arriver à un rythme de 12 000 assassinats par jour, c'est-à-dire en un mois et demi, de début mai jusqu'à la fin juin, ce sont 430 000 juifs qui sont assassinés, juifs de Hongrie, qui sont emmenés comme ça. La Hongrie a été divisée en 6 zones et on vide les zones les unes après les autres de manière parfaitement rationnelle et systématique.
Et Fabrice Virgili, cette déportation, elle va être interrompue au mois de juillet. Donc elle commence en mai, elle est interrompue au mois de juillet, pourquoi ?
Alors elle est interrompue parce que certes, les Allemands ont envahi la Hongrie, mais Horthy est toujours au pouvoir. Le 2 juillet, Budapest est bombardé par les Alliés. Et donc, il va, à la différence des assassinats de Juifs qui ont eu lieu en 1941-1942, ceux-là sont non seulement connus, sont dans la presse et ont même été annoncés dans la presse américaine ou des pays neutres. Et donc, il va justement, à ce moment-là, pouvoir reprendre la main, disons, pour interrompre cette déportation à partir du début du mois de juillet 1944, avec le risque qu'elle reprenne à tout moment. Hein. Mais c'est une sorte de temporisation vis-à-vis des Alliés dans une situation qui est de plus en plus incertaine. Là, le débarquement a eu lieu. Hein. On avance dans le temps de la guerre. Le 6 juin, le débarquement en Normandie a eu lieu. Donc, il y a cette volonté de la Hongrie de temporiser.
Et c'est après cet arrêt de la déportation qu'apparaît Raoul Wallenberg ?
Oui, alors lui, il était prévu qu'il arrive alors que la déportation et l'assassinat des Juifs à leur arrivée avaient commencé. Hein. Sa mission avait été prévue plus tôt, parce que justement, face à ce qui se passait, à la connaissance de ce qui se passait, certains ont essayé d'œuvrer pour ralentir, pour arrêter, pour sauver, ne serait-ce que quelques milliers, quelques centaines, quelques dizaines, si on ne pouvait pas faire plus. Hein. Et donc, Raoul Wallenberg va être contacté par le War Refugee Board, qui est en fait créé à l'initiative des Américains en janvier 1944, parce que le problème des personnes déplacées est gigantesque. Hein, et Roosevelt, dont la priorité est de mener la guerre, hein, on est dans les préparatifs du débarquement, c'est la priorité. Mais il accepte, à condition que ça ne trouble pas le déroulement de la guerre. Et donc, là, une mission avec aussi le Congrès juif mondial, qui va apporter également un financement, cherche quelqu'un pour essayer d'aller sauver un certain nombre de personnalités, de personnes présentes en Hongrie.
Pourquoi lui ? Pourquoi Raoul Wallenberg ?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'après tout, il n'y avait pas vraiment de raison que ce soit lui. Il n'a pas une grande carrière de diplomate. Il n'est pas diplomate. Il va le devenir à ce moment-là, mais il ne l'est pas. Wallenberg, ça ne dit rien aux auditeurs français, mais en Suède, c'est un nom qui est extrêmement familier. La famille Wallenberg est une famille, une puissance financière et industrielle depuis le milieu du 19e siècle. Et c'est un peu comme si on avait une seule famille en France qui regroupait Bettencourt, Bolloré, Lagardère et d'autres. C'est-à-dire c'est un tiers quasiment de la richesse, de la puissance financière et industrielle suédoise.
Donc c'est déjà une très grande famille à l'époque.
Très grande famille et une très grande dynastie bancaire et industrielle.
Donc on ne va pas chercher n'importe qui. Si on vous pose la question, c'est parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire de cette famille. Mais à l'époque, on va chercher un Wallenberg.
Oui, mais en même temps, on va chercher un Wallenberg qui est, on pourrait dire, le vilain petit canard. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans la filière de ses... son père est mort avant sa naissance, donc pas son père, mais de ses grands-parents, oncles, etc. Il n'est pas dans la banque. Il a fait des études aux États-Unis d'architecture. Il a plutôt une vie comme ça de, on dirait, on ne disait pas à l'époque, mais de jet set. Voilà, il a beaucoup voyagé, il a un carnet d'adresses du fait de sa famille, du fait de ses voyages, il a voyagé pendant la guerre, et puis il est neutre. C'est-à-dire qu'on l'oublie, mais il y a des pays neutres pendant la Seconde Guerre mondiale, et un certain nombre de ces neutres peuvent voyager facilement.
Mais Fabrice Virgili, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous venez de nous expliquer que la Hongrie est un pays fraîchement, on va dire, occupé par l'Allemagne nazie. Comment le War Refugee Board peut pénétrer, envoyer quelqu'un à l'intérieur qui va avoir pour mission de sauver des Juifs ?
En passant par la Suède, pays neutre.
D'accord.
D'où, Wallenberg est suédois, il est donc neutre, et comme les autres pays neutres, mais la Suède en particulier, il a voyagé au sein de l'Europe nazis occupés auparavant pour faire des affaires.
Et donc il y a une ambassade de Suède, par exemple, à Budapest,
oui,
il y a, enfin,
oui,
bon, l'équivalent.
On dit légation à ce moment-là,
voilà,
mais
d'accord.
il y a ce qu'on appelle un ministre avant les ambassadeurs pour les petits pays.
Et donc il peut officiellement se rendre sur place avec
tout à fait,
un titre.
Avec un passeport diplomatique, il peut circuler, il connaît du monde, il était à Budapest, il avait fréquenté le fils du régent Horthy, donc il est parfaitement intégré dans la haute société européenne et il circule sans difficulté. Il a fait des affaires, il était venu en France à Vichy aussi pour faire des affaires entre la Suède. C'est un homme d'affaires.
Alors Fabrice Virgili, il arrive, Raoul Wallenberg, à Budapest, il arrive en Hongrie. Quelle est sa mission? C'est quoi son ordre de mission?
Alors, j'ai envie de dire, son ordre de mission au début, c'est faire ce qu'il peut pour sauver un certain nombre de personnes qui ont été plus ou moins identifiées de familles juives suédoises ou sur place, ou des personnes sur lesquelles on veut intervenir. Et puis, petit à petit, il va s'apercevoir du pouvoir qu'a justement ce laissez-passer délivré par la légation de Suède, qui va sortir du statut de juif de Hongrie un certain nombre de juifs en les rendant suédois. Donc on va avoir comme ça quelques centaines, puis quelques milliers de juifs suédois qui vont apparaître de fait à Budapest. Pourquoi Budapest? Parce que je disais tout à l'heure que Eichmann a organisé l'assassinat des juifs de Hongrie, mais au moment de l'interruption, c'est la région de Budapest pour laquelle il n'avait pas encore commencé le travail. Donc les juifs de Budapest sont encore vivants et présents dans la ville.
Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes.
Oui, on est encore à 200-250 000 juifs qui sont encore en Hongrie à ce moment-là. Et donc, Wallenberg va commencer ainsi, il va intervenir, il va délivrer des laissez-passer, et puis ça va marcher de plus en plus. Il va employer des juifs hongrois au sein de la légation et des différents bureaux qu'il va mettre en place, ce qui est aussi un statut protecteur, et il va développer cette activité. C'est-à-dire qu'on part au début de l'idée de quelques centaines du soin apporté à quelques personnes à des milliers, et à côté de ça, il va évidemment toujours essayer d'intervenir auprès des autorités pour les protéger et protéger aussi les autres.
Alors justement, on va entrer dans ce système Wallenberg, comment il a imaginé et comment il a pu sauver autant de juifs. On raconte cela dans un instant dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Si j'étais l'objet de votre choix, et si les affaires étrangères suédoises étaient d'accord pour me laisser la latitude nécessaire, alors, messieurs, je vous garantis que rien ne me découragerait.
RTL.
Excellente réponse. Vous seriez un diplomate suédois pleinement accrédité, attaché à la légation.
Jusqu'à 22h.
Ce qui s'appelle, en termes d'espionnage, une couverture.
Vous l'avez dit.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment un diplomate suédois, ancien jet-setter, a-t-il réussi à sauver des dizaines de milliers de juifs hongrois à la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est le destin fascinant de Raoul Wallenberg que l'on vous raconte ce soir. Injustement méconnu en France, on répare cet oubli avec l'historien Fabrice Virgili. Alors, il est envoyé en Hongrie par les Américains, c'est en juillet 1944. D'ailleurs, Raoul Wallenberg, est-ce qu'il est juif?
Non, il n'est pas juif, il est pas tout à fait envoyé par les Américains, parce que sinon, évidemment, il serait tout de suite arrêté. Il est financé, il a des fonds du War Refugee Board, donc bien par les Américains. Il est choisi par les Américains, effectivement, aussi, parce qu'il a fait ses études aux États-Unis, il y a passé 4 ans, il est bien connu, et c'est comme suédois qu'il arrive, c'est ça, sa porte d'entrée.
Et la porte de sortie, justement, pour...
Il n'est pas juif, mais à un moment dans sa jeunesse, il a voulu se donner une identité juive, donc avec des camarades de régiment, il évoquait un aïeul juif. Il a un côté, dans sa jeunesse, c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le moule Wallenberg, un peu contestataire. Quand il fait son service militaire en Suède, il est, du point de vue de ses officiers, considéré comme indiscipliné et pro-communiste.
Mais c'est une tête brûlée, c'est un poète, c'est qui Raoul Wallenberg?
C'est difficile à dire. En plus, au cours de sa courte vie, finalement, son attitude, sa manière d'être change beaucoup. Il a un côté artiste quand il va étudier les États-Unis, qu'il voyage, il va au Mexique, il est aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Voilà. Ensuite, il se retrouve en Afrique du Sud, puis il va aller en Palestine quand c'est un mandat britannique, et il va voir ce que sont les premiers foyers juifs en Palestine. En revenant, il va passer par Berlin au moment des Jeux Olympiques de Berlin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance finalement de ce monde à la fois parce qu'il a beaucoup voyagé, mais qui en vit un peu en dehors aussi.
Alors on dit que Raoul Wallenberg a sauvé des dizaines de milliers de juifs en Hongrie. C'est par ses passeports suédois, c'est ça qu'il délivre? C'est ça le début de la porte de sortie pour eux?
Alors, la première chose, c'est ça, oui, ce sont les laissez-passer. Et puis, quand ils voient l'efficacité de ce système, ils vont les développer. Oui, c'est légal. C'est une légation qui délivre des laissez-passer qui sont délivrés par cet État. Alors, c'est légal, mais on est dans une situation, il faut imaginer ce que peut être, pas simplement la Hongrie, mais l'Europe, à ce moment-là, la fin de l'été 44, l'armée rouge, ne l'oublions pas, approche toujours, et pour les Hongrois, ce n'est pas rien, hein, ni pour les dirigeants nazis, d'ailleurs. Donc, c'est légal, mais il y a toujours la menace que ça ne soit pas respecté, et donc, toute une partie de son activité va consister à faire que cette protection soit maintenue. Par exemple, il va placer les familles juives dans des immeubles au moment de la politique de ghettoisation, dont je parlais tout à l'heure. Quand les juifs sont expulsés, il y a des immeubles qui sont déclarés ariens, non juifs, sans juifs. Et donc, il va placer les familles juives dans certains de ces immeubles, puisqu'ils sont a priori protégés.
Mais comment il est choisi, ces juifs? C'est des juifs qui viennent à lui? Comment ça se passe?
Alors, oui, on est à Budapest. Évidemment, il y a un bouche à oreille qui circule. Au début, c'est lui qui va et les employés de la légation qui vont le chercher. Mais au bout d'un moment, ça se sait. Donc, il y a des gens qui viennent. Il y a un monde fou. On a quelques clichés. On voit la légation et les différents bureaux qu'il met en place qui viennent prendre ce laisser-passer protecteur, bien sûr.
Et les nazis se doutent de rien? Quels sont ses rapports, lui, avec les nazis?
Par exemple, dans son carnet d'adresses, qui est conservé aujourd'hui au musée de l'armée à Stockholm, vous avez à la lettre E, Eichmann, pour Adolf Eichmann, avec son numéro de téléphone. Donc il va jouer...
Un homme de réseau?
Bien sûr, c'est un homme de réseau. C'est avant tout un homme de réseau.
Et il joue un double jeu?
Non, il ne joue pas Non, je crois pas qu'on puisse dire qu'il joue un double jeu. À aucun moment, il fait croire qu'il réunit les juifs pour les déporter. Hein. Non. Il joue le jeu de la neutralité, de l'intervention, disons, de type humanitaire pour les sauver. Mais il essaye de faire valoir chaque fois auprès de ses interlocuteurs, soit le fait que plus tard, ça pourra leur être crédité. Et puis, à certains moments, pour d'autres, évidemment, ça peut pas fonctionner avec des gens comme Eichmann, mais pour d'autres, c'est la corruption qui va être utilisée. C'est-à-dire qu'il a aussi de l'argent, il a un financement pour pouvoir éventuellement corrompre, acheter des vies, finalement, pour pouvoir les sauver. On est quand même dans un moment où la corruption fonctionne parfaitement bien pour pouvoir justement intervenir, jouer sur toutes les contradictions à la fois dans le régime hongrois, entre les Hongrois et les Allemands, pour essayer, lui, d'obtenir ses fins, qui sont de sauver le maximum de juifs de Hongrie.
Homme de réseau, homme de terrain, homme de cœur, on continue de vous raconter comment le diplomate suédois Raoul Wallenberg a sauvé la peau de dizaines de milliers de juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, nous sommes curieux du destin de Raoul Wallenberg, le diplomate suédois qui sauva des dizaines de milliers de juifs hongrois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre invité, l'historien Fabrice Virgili, lui consacre une très belle biographie chez Payot. Et au lendemain des déclarations de Jean-Marie Le Pen, des réitérations de Jean-Marie Le Pen sur la déportation des Thaïs de l'histoire, c'est important de sortir Raoul Wallenberg de l'oubli, puisqu'en France, on ne le connaît pas ou mal. Il délivrait des passeports de protection aux juifs de Hongrie. Il partait à la recherche des disparus. Et Fabrice Virgili, quand Eichmann fit transporter les juifs dans des trains bondés, qu'est-ce qu'il fait, Wallenberg? Il intensifie ses efforts, il essaye d'en faire encore plus?
En fait, à partir du 15 octobre, Horthy est définitivement mis sur le côté. En 44, oui, bien sûr.
Donc, c'est le chef d'État.
C'est Ferenc Szálasi qui prend le pouvoir. Qui,
donc, lui, nouveau chef d'État en Hongrie.
Tout à fait, des croix fléchées. Et qui, lui, veut... elle est d'accord pour l'assassinat des juifs. Donc à ce moment-là, il y a une situation particulièrement dangereuse pour les juifs qui reste à Budapest et ceux protégés par Wallenberg. Et Wallenberg va par exemple une fois à la frontière, à la limite entre la Hongrie et le Reich, pour arrêter un train et ramener les Juifs qui étaient à l'intérieur. À un autre moment, il va intervenir alors qu'un pogrom est en train d'être organisé dans une synagogue où des Juifs ont été rassemblés pour empêcher que ce pogrom ait lieu. Et tout au cours de l'automne, donc octobre, novembre, décembre, l'essentiel de son intervention va être à chaque fois d'éviter un pogrom, un massacre, parce que les croix fléchées circulent dans Budapest. C'est vraiment la terreur qui est appliquée. Ils peuvent prendre des gens, les abattre ou les jeter dans le Danube. Donc il y a vraiment un chaos complet qui se met en place à ce moment-là. L'armée rouge approche toujours de plus en plus. Donc les croix fléchées sont...
Les croix fléchées, c'est les SS version hongroise.
Voilà, c'est ça. Sorte, c'est le groupe militaire qui dépend de Ferenc Szeladzi.
Mais il agit tout seul, Raoul Wallenberg?
Non, il n'agit pas tout seul. D'abord, c'est vrai qu'on aurait pu le dire, il y a d'autres diplomates de pays neutres qui sont là, hein, des Suisses, des Salvadoriens, des Portugais, qui vont intervenir avec lui, la Croix-Rouge internationale bien entendu. Donc il y a tout un petit réseau de neutres qui agissent dans le même sens. Hein. Et parfois c'est plus les uns que les autres qui se mettent en avant. Mais il y a aussi quelques Juifs salvadoriens qui vont devenir salvadoriens à ce moment-là, protégés par le consul du Salvador.
Mais Raoul Wallenberg, il devait les rendre fous, les nazis. Est-ce qu'ils ont reçu l'ordre, par exemple, de l'abattre ?
Eh bien, il n'y a pas d'ordre de l'abattre, mais c'est vrai qu'à un moment, il craint pour sa vie. Il y a déjà une tentative d'assassinat. Il se promène avec promène, c'est pas le bon mot. Il se déplace,
il vit,
plutôt,
ouais,
avec un revolver dans les rues de Budapest. La situation est de pire en pire. Et surtout, alors, au mois de décembre, l'armée rouge encore approche. Je crois que c'est important d'avoir cette chronologie dans la tête, puisque Eichmann va partir in extremis de Budapest parce qu'il n'a évidemment aucune envie de se faire arrêter par l'armée rouge. Et c'est dans ces quelques trois dernières semaines de l'année 44 et tout début 45 que les exactions des croix fléchées continuent et que Wallenberg essaye toujours, avec tout le réseau qu'il a développé, parce que maintenant ça fait 6 mois qu'il est là, il connaît bien Budapest, de maintenir ceux qu'il a pu sauver.
Comment se termine l'histoire de Raoul Wallenberg ? Il sera arrêté finalement ?
Alors, l'histoire se termine par l'arrivée de l'armée rouge à Budapest, qui sauve les Juifs d'Hongrie qui n'ont pas été assassinés. Parce que là, c'est clair, il n'y aura plus de déportation de Juifs de Hongrie. Et donc, les 200 000 Juifs de Hongrie qui n'ont pas été assassinés, une partie a été sauvée par Wallenberg, par l'action des diplomates, des autres consuls de pays neutres, par l'action aussi de Juifs eux-mêmes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui ont tout fait aussi pour éviter les déportations. Mais le coup d'arrêt définitif, c'est l'arrivée de l'armée rouge. Seulement l'arrivée de l'armée rouge, pour Wallenberg, ça va signifier la disparition. Il se rend, ou il est convoqué par les autorités soviétiques, à la mi-janvier 1945, et il est en fait arrêté, et on n'a plus de nouvelles de lui.
Pourquoi ?
Eh bien parce que du point de vue de l'armée rouge, il est suspect d'être un agent américain. On aurait trouvé avec lui de l'argent, des faux papiers, puisque c'était son arme principale pour sauver les Juifs. Et donc, de toute manière, en plus, il faut voir que pour nous, la Suède est un pays neutre, aujourd'hui dans une Europe pacifiée, mais la Suède, à ce moment-là, jouait un rôle quand même très ambigu. Elle avait, toute l'économie suédoise avait vendu du minerai de fer, des roulements à billes à l'Allemagne nazie. Donc elle n'est pas particulièrement appréciée,
donc
ni par les soviétiques, ni par les alliés
américains.
Donc la
Suède, elle lâche Raoul Wallenberg, c'est ce que vous êtes
à
en train de dire?
Non, à ce moment-là, le problème n'est pas là. Personne ne contrôle ce qui se passe à Budapest en janvier 45.
Donc il disparaît.
Il disparaît. Et puis, on sait par la suite qu'il va être emmené en URSS. Il va se retrouver dans la prison du KGB à la Loubianka. On n'a pas de nouvelles. Et c'est là où la guerre est terminée, du coup. Mm-hmm. Puisqu'on était en janvier 45 quand il disparaît. La guerre est terminée, mais lui ne réapparaît pas. Et évidemment, du côté suédois, on commence à s'inquiéter de cette absence prolongée. Mais toujours avec la situation compliquée de la Suède à ce moment-là, qui essaye finalement de se réintégrer parmi les nations. Donc il disparaît, et ce n'est que 10 ans après, en 1957, que Khrouchtchev déclare, donc le secrétaire général du Parti communiste soviétique, que Wallenberg est mort d'une crise cardiaque en 1947 dans une cellule du KGB.
Est-ce qu'on en est sûr ?
Non, on n'en est pas sûr. Il y a eu trois commissions d'enquête, dont une suédo-russe après la chute du mur. Il y a un épisode rocambolesque d'une valise avec les archives du KGB qui serait tombée et toutes les archives Wallenberg. Donc il y a toujours eu un doute, mais on peut quand même raisonnablement penser qu'il était mort à ce moment-là et que quand les Américains le font, citoyen d'honneur des États-Unis, ce qui n'est pas rien, il y a Churchill avant lui, Lafayette après, ils sont sept en tout et pour tout. C'est un honneur immense.
Vous écoutez RTL.